Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ça vous ennuie vraiment si je reste là maintenant?
Absolument pas, c'était Patrick Roger. À demain Patrick. Alors prends le cours de l'histoire justement. Quand un simple coup de lance fait basculer le cours des choses, Franck Ferrand choisit cet après-midi sur Europe 1 de ressusciter le dernier grand tournoi de l'histoire de France.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le célèbre tournoi de chevalerie des Tournelles, à la fois si brillant et si tragique. Ce qui m'a donné envie de vous raconter ce grand moment, c'est une exposition superbe qui se tient en ce moment aux Invalides et dont nous allons recevoir tout à l'heure un des commissaires. Une exposition d'armures, mais pas n'importe quelles armures. Je parle là de ces fastueux objets d'art gravés, décorés sur toutes les tailles, dorés, qu'on a pu voir en France au temps de la Renaissance.
Alors vous savez maintenant comment nous adresser vos questions, chers auditeurs, soit par internet sur europe1.fr, soit via la page Facebook de l'émission.
Une émission bien nommée « Au cœur de l'histoire ».
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Ordre du roi, les réjouissances seront les plus fastueuses que l'on ait vues de vie d'homme. Elles culmineront dans un tournoi de chevalerie qui se doit d'être le plus magnifique jamais organisé. Des héros d'armes s'en iront crier partout dans les provinces que les tenants du dit tournoi jouteront en champ clos contre tout venant, prince ou simple gentilhomme, chevalier ou écuyer, pour inciter les jeunes à la vertu, l'expression est du roi même. Le roi dont je parle, c'est Henri II, le fils de François Ier, le mari de Catherine de Médicis, le bien-aimé de Diane de Poitiers. C'est elle du reste, c'est Diane, dont il va porter les couleurs au cours de cet affrontement, le noir et le blanc en héraldique, on dit, de sable et d'argent. En ce printemps 1559, Henri II vient d'avoir 40 ans. Il sent la jeunesse le quitter peu à peu. On est au XVIe siècle, c'est pour ça que je dis ça. Il se doute que c'est probablement la dernière fois qu'il entrera lui-même en lice pour relever le défi des jeunes seigneurs qui pourraient être ses fils. Alors, il entend bien en profiter. Il entend bien se montrer brave jusqu'au bout, comme dans ses romans de chevalerie qui l'ont toujours ébloui. Ordre du roi, les lices seront dressées sur la rue Saint-Antoine, la plus vaste, la plus large de Paris. La rue Saint-Antoine, que vous connaissez toujours, hein, c'est entre Saint-Paul et la Bastille. Cette rue sera dépavée pour l'occasion, couverte de sable. Les grandes arches d'honneur pour laisser entrer les chevaliers seront du côté de la forteresse de la Bastille, dont la masse s'élève dans le ciel de Paris. Les tribunes seront installées de part et d'autre, le long des façades qu'elles vont d'ailleurs cacher presque entièrement, dont celle de l'hôtel royal des Tournelles, où réside en ce moment même Henri II. Quel est le prétexte de ces réjouissances? Eh bien, c'est la célébration de la paix revenue avec l'Espagne et la célébration des mariages qui en découlent. Le roi va en effet marier sa fille Élisabeth au roi d'Espagne et sa sœur Marguerite au duc de Savoie. Cette dernière union est prévue pour le 9 juillet. Quant au mariage royal, il aura lieu en Espagne. Pour le moment, Philippe II est resté chez lui. Il a envoyé le duc d'Albe qui va donc épouser la princesse en son nom, mais par procuration seulement. Ordre du roi, ces mariages doivent être applaudis et fêtés. La vérité, c'est que la paix du Cateau-Cambrésis, qui a été négociée par un connétable prisonnier des Espagnols, est vertement critiquée par l'opinion. Cette paix entérine une défaite amère, elle scelle un certain recul pour la France, et notamment la renonciation à toute possession italienne. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'en est fini du beau rêve transalpin de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier. Et voilà pourquoi on maugrait dans la ville. Voilà pourquoi on murmure à la cour. La famille de Guise en profite pour avancer ses pions. Le connétable, je vous l'ai dit, a été longtemps prisonnier. Ensuite, il s'est occupé des négociations. Et pendant ce temps-là, les Guises, notamment le cardinal de Lorraine, en profitent pour accroître leur influence sur le roi et sur la favorite. Cette famille a choisi un bouc émissaire depuis longtemps. C'est le luthérien, le réformé, ce qu'on appellera bientôt le protestant, le huguenot. Les Guises ont du reste un nouvel argument. Puisque les ambassadeurs espagnols viennent d'arriver à Paris, il va falloir leur montrer la résolution du roi de France à défendre la foi catholique. Une fois de plus, la répression s'abat donc sur les têtes pensantes de la réforme. Et pas plus tard que le 10 juin, au couvent des grands Augustins, le roi s'est invité sans prévenir à une séance du Parlement de Paris, on appelle ça une mercuriale, une séance au cours de laquelle un certain nombre de conseillers du Parlement doivent prononcer des allocutions, et notamment le conseiller Anne Dubourg, qui est suspecté d'hérésie. Le luthérien qui sommeille en Anne Dubourg a profité de l'occasion. Il a parlé très franchement, très clairement. Et le roi, outré de ce qu'il a entendu, a ordonné au capitaine de sa garde écossaise d'arrêter sur le champ le conseiller. Ce jeune capitaine en question s'appelle Gabriel de Montgomery. Montgomery, retenez bien son nom. En attendant, la ville a maugré encore davantage, la cour a plus que jamais murmuré et Henri II s'est raccroché à la perspective de ces réjouissances qu'il entend bien offrir dans les jours qui viennent aux Parisiens. Pour étouffer le mécontentement, il importe à tout prix que ces fêtes aient le plus d'éclat possible. Ordre du roi. Nous sommes 3 semaines, on est carrément dans un film d'Hollywood. Nous sommes 3 semaines après l'arrestation de Dubourg sous les yeux du roi, au tout début de l'été, le 30 juin exactement. La rue Saint-Antoine est méconnaissable, je vous ai dit qu'on l'avait transformée pour l'occasion. Elle est couverte d'oriflammes, de rubans, de décors, de fleurs, de tentures, d'écoinçons aux armes de France, d'Espagne et de Savoie. Elle se trouve donc hérissée de ses tribunes, équipée de lys, de contre-lys pour accueillir les joutes équestres. Ces joutes, c'est bien entendu le clou de la fête. Elles doivent occuper tout le 3e jour du tournoi, autrement dit ce vendredi, ce 30 juin 1559. Le ciel ce jour-là est bleu pur, le soleil de plomb fait régner une chaleur étouffante, chaleur lourde, chaleur moite qui rend pénible la poussière soulevée par les chevaliers. Le public suffoque, on est à la recherche du moindre souffle d'air, le peuple commence à se lasser, on le voit quitter les lieux discrètement. Alors dans les tribunes de la cour, on aimerait bien pouvoir en faire autant, mais c'est plus difficile. C'est pas le moment de s'éclipser parce qu'après les ducs de Nemours, de Ferrare et de Guise, le 4e et dernier tenant de la journée, le tenant c'est celui qui reçoit les défis des différents jouteurs, ce tenant, ce dernier, c'est le roi Henri en personne. On annonce Sa Majesté le roi. Alors si vous voulez bien, approchons-nous de la tribune des dames. Très belle tribune, aux belles places se trouve la reine Catherine, évidemment, avec à sa droite sa belle-fille, la reine d'Écosse Marie Stuart. Et puis un peu plus loin sur la gauche, sa rivale dans le cœur du roi, celle qu'on appelle la plus que reine, la vieillissante, certes, mais indétrônable, Diane de Poitiers. Celle-ci a dépassé les 60 ans, mais elle porte beau. On dirait que ni le temps, ni la chaleur, ni même l'angoisse des circonstances ne peut avoir de prise sur elle. La reine d'Écosse, de son côté, s'est assoupie. Quant à Catherine de Médicis, elle a le cœur serré. Vous savez que Catherine croit beaucoup aux présages, aux augures, à toutes les prophéties, etc. Or, ce tournoi ne lui dit rien qui vaille. Ses astrologues lui ont dit que la conjonction des astres était particulièrement défavorable. Et depuis le début du tournoi, 2 jours plus tôt donc, elle vit dans la hantise des joutes équestres, qui sont évidemment les plus dangereuses parmi toutes les réjouissances offertes. Car, en effet, il faut savoir que l'évêque Goric, qui était l'astrologue du pape, depuis très longtemps, ça fait 15 ans cette histoire, il avait mis le roi en garde contre les duels, pas 15 ans, ça fait 11 ans précisément, contre les duels et surtout contre les duels qui pourraient avoir lieu dans sa 40e année. C'est assez précis ça, on y est là dans la 40e année. Et je vous l'ai dit, depuis des semaines, les voyants, les astrologues, tout le monde confirme cette espèce de présage, on déconseille au roi de participer à ce tournoi. Seulement, vous imaginez bien que Henri II n'a pas l'intention de s'abstenir de jouter. Vu son âge, c'est très probablement la dernière fois qu'il aura l'occasion de rompre des lances. Non, non, ça, ce serait mal le connaître. La reine n'a pu que s'incliner devant la détermination royale. Elle soupire. « Il va lui arriver malheur », pense-t-elle. Voilà ce qu'elle dit autour d'elle. « Je le sens, je le sais ».
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 au cœur de l'histoire du célèbre tournoi de chevalerie des Tournelles-Francs.
À Paris, en ce 30 juin 1559, le tenant Henri II, roi de France, s'apprête donc à contrer les assauts de tous les venants inscrits. Il passe sous l'arc de triomphe, la double arche dressée du côté de la Bastille. Il arbore à son casque fermé ce qu'on appelle un armet, un cimier de plumes blanches et noires en l'honneur de Diane de Poitiers, exactement comme il l'avait fait pour la première fois de sa vie au même endroit, 28 années plus tôt. Il avait déjà choisi pour dame la belle Diane. Diane lui rend du reste son gracieux salut et on peut... Les initiés voient la reine Catherine pincer les lèvres. Et l'on annonce le premier assaillant. Entré en lice face au roi, du duc de Savoie en personne, empanaché de pourpre, il monte un cheval magnifique, aussi beau du reste que celui qu'il vient d'offrir au roi lui-même, et qui, mauvais augure décidément, s'appelle le Malheureux. Vous avouerez que c'est quand même un drôle de nom. C'est toujours le même rite, vous savez, on fait crocheter les visières des casques, on arme les jouteurs de lances neuves. Dans la tribune, la reine fait signe au duc de Nemours d'approcher. Sur le sable, les chevaliers se font face. « Serrez bien les genoux !» lance le roi à son futur gendre, « car sans égard à nos liens, ils vont en effet bientôt être beau-père et gendre, sans égard à nos liens, je vais vous ébranler d'importance !» Le duc se contente de rire, ça y est, les deux chevaux se lancent, ils galopent, les lances s'inclinent, les cavaliers se heurtent violemment, un bruit mat, des éclats de bois dans l'air surchauffé. Sa voix vacille en selle, et on entend une rumeur dans le public comme ça, à chaque fois qu'il y a cette espèce de confrontation des cavaliers. Le duc lève le bras droit pour rassurer les juges, le roi de France rouvre déjà son armée, la victoire lui appartient. Alors il y a donc toujours cet instant d'effroi, et puis comme à chaque fois, l'assistance ensuite acclame le vainqueur, et d'autant plus qu'en l'occurrence c'est le roi, ça tombe bien. Le duc de Nemours salue la reine Catherine. « Madame, vous souhaitiez me parler. Monsieur le duc, rendez-moi s'il vous plaît un grand service, lui dit Catherine. Allez trouver le roi et pour l'amour de moi, suppliez-le de ne tenter le sort davantage. Il doit absolument renoncer à jouter ce soir. » Le duc soupire et tout en délassant ses coudières, il descend de la tribune et longe la première contre-lice pour se diriger vers le roi. Déjà, les trompes annoncent l'entrée en lice d'un nouvel assaillant, c'est le duc d'Aumale, frère donc d'Aiguise et gendre de Diane. Nemours n'a pas le temps de s'opposer à ce nouvel assaut, tandis que les chevaliers se mettent en place, il fait en direction de la reine un geste d'impuissance, le roi est prêt, il va de nouveau jouter. Et c'est la deuxième passe, encore plus violente que la première. Henri, on pense que dans cette passe, il tenait son écu de travers. En tout cas, il laisse partir son bras gauche en arrière. Il n'en remporte pas moins l'assaut. Et de nouveau, ce sont des acclamations dans la foule. Dans la foule de ceux que la chaleur n'a pas encore chassés. Parce que vraiment, ça commence à se clairsemer dans les tribunes. Il fait une telle chaleur et surtout une telle poussière. On tousse, enfin, ça devient vraiment pénible. Henri II dirige justement sa monture. Il faut imaginer ce que c'est que sa monture, hein. Je ne vous ai pas dit, mais évidemment, le chevalier est armé. Il porte une armure absolument sublime, entièrement festonnée, on va en parler tout à l'heure. Et puis, son cheval aussi est entièrement caparaçonné. Il est couvert d'armure et de draps d'or et d'argent rebroché d'or. Enfin, tout ça est absolument somptueux, évidemment. Donc, Henri s'approche de la tribune. Et il fait basculer, il ouvre sa visière pour pouvoir parler à son futur gendre. « C'est ce bon cheval qui me fait donner ces beaux coups de lance, » dit-il. « Tant mieux, » répond le duc de Savoie, « je suis heureux que ma monture vous fasse si bon service. » On sait tout ça parce qu'étant donné ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, évidemment, on a un très grand nombre de témoignages sur ce tournoi des Tournelles qui fait partie de ces instants volés à l'oubli des siècles et que les archives, que les mémoires, que les chroniques du temps et depuis nous ont permis d'appréhender. À cet instant, 5 coups sonnent au clocher voisin. Discrètement, le public en nage continue de quitter les tribunes. On voit même de grandes dames qui prennent prétexte de l'heure pour s'éclipser. Le roi fait mine de ne pas s'en rendre compte. Il est revenu vers ses gens. Il met pied à terre au moment où le duc de Nemours l'aborde. Enfin, j'ai envie de dire. « Sire, Sa Majesté la Reine me prie de vous implorer, cessez de jouter, monsieur, pour l'amour d'elle. » Henri lui décroche un regard, un regard noir. « Au vrai, ajoute Nemours, je partage l'avis de la Reine. Il fait trop chaud, sire, le jour avance, vous devriez cesser de vous travailler ainsi. » C'était encore la belle époque où travail et torture étaient synonymes. Le roi est peut-être d'accord, mais il ne peut tout de même pas donner l'impression de céder aux suppliques d'un froussard. « Dites à la reine que pour l'amour d'elle, justement, je courrai encore une lance. Mais, foi de gentilhomme, ce sera la dernière. » Alors on fait donc entrer un troisième, c'est bien notre illustration.
C'est parfait.
C'est tiré d'Ivanhoé, mais ça va comme un gant à la circonstance. On fait donc entrer un troisième assaillant, empanaché de gueules et d'azur, je devrais donc vous dire de rouge et de bleu. Son nom, Gabriel de Montgomery. Rappelez-vous, c'est ce capitaine des gardes qui, trois semaines plus tôt, avait arrêté Dubourg en pleine séance du Parlement. Le jeune homme est visiblement embarrassé, si seulement il pouvait décliner l'honneur de défier le roi. Il faut savoir que son père, autrefois, à Romorantin, au cours d'un jeu stupide, c'était une bataille de boules de neige en l'occurrence, son père a failli tuer le roi François Ier en lui lançant d'une fenêtre un tison ardent sur la tête. Le roi avait été assommé, il était resté alité plus de 15 jours avec cette histoire. Et donc cet épisode, évidemment, fait partie de l'histoire familiale, il a été constamment raconté, il a hanté la jeunesse de Gabriel, qui ne voudrait pas qu'une sorte de malédiction pousse les héritiers de sa famille à s'en prendre systématiquement à la vie des rois de France. Seulement voilà, comment refuser une lance au roi, surtout quand on porte sur ses propres armes des lys témoins d'une très vieille parenté avec la dynastie. Sonnerie de trompe, charge des chevaux, le nouveau heurt est aussi violent qu'indécis, les deux lances se sont brisées, mais sans donner de victoire évidente à l'un des cavaliers. Tous les deux relèvent donc leur visière, la partie du casque de l'armée qui protège leur visage. « Il faut recommencer, dit le roi. Non, la victoire est vôtre, sire. Qu'est-ce que vous en savez ? Oh, je le sais, répond Montgomery. » Celui qui sert de valet d'armes au roi, le maréchal de Vieilleville, abonde en ce sens. Il assure qu'un nouvel assaut serait contraire aux règles de la chevalerie. « Je veux ma revanche, insiste le roi. Il m'a fait branler sur ma selle et quasi même sur mes étriers. » Dans la tribune, le duc de Nemours a rejoint la reine à ce moment-là. « Madame, le roi m'a promis que cette lance était la dernière, dit-il. Ah, Dieu soit loué, se réjouit Catherine. Merci, monsieur. J'ai bien cru. » Et là, la reine n'aura pas le temps d'achever sa phrase, parce que le roi se précipite à l'assaut. Sans même attendre la sonnerie des trompes et sans que Vieilleville ait eu le temps de crocheter son armée, le roi est reparti. Le jeune Montgomery est pris de court, il est prône à son tour, seulement lui n'a pas eu le temps de changer de lance. Et celle qu'il arbore est brisée. Une visière qui n'est pas crochetée, une lance brisée. Les deux cavaliers foncent l'un vers l'autre. Au grand galop, ils sont debout sur leurs étriers, fracas du choc, raclement des lances sur les écus, on voit les chevaux déraper dans la poussière, tout ça tétanise l'assistance. Les deux montures s'affaissent sur la croupe, celle de Montgomery se relève tout de suite et le cavalier se rétablit en saisissant l'arçon. Mais l'autre cheval, celui qu'on nomme le malheureux, finit la course tout de biais. Le roi se cramponne tant bien que mal à l'encolure, il penche du côté de la lisse, puis du côté de la contre-lisse et en bout de course, il se laisse tomber dans les bras des valets. Il y a là une clameur d'effroi, bien entendu, et puis les tribunes sont plongées dans un silence terrible. Les juges du camp, ce sont les maréchaux de Montmorency et de Tavannes, accourent aussitôt. Ils se chargent du roi, ils le portent jusqu'à un banc, et à travers la visière entrouverte, on voit des pointes de bois sanguinolentes qui dépassent. On retire au roi son casque avec énormément de précautions, évidemment. Un flot de sang jaillit du visage, découvrant l'affreux spectacle des esquilles de bois qui sont longues, fichées dans son œil gauche. La lance a frappé le front au-dessus du sourcil droit. Elle est venue s'enfoncer dans la tête, profondément, par le sinus opposé. On tente d'y voir plus clair en jetant au visage d'Henri un petit seau d'eau mêlée de vinaigre. Et puis on va réitérer l'opération avec de l'essence de rose, ce qui ne doit pas être douloureux, vous imaginez. Le roi, d'ailleurs, sous le coup, reprend connaissance. On essaie de le rassurer. Et voilà le pauvre, le jeune Montgomery, pâle comme la mort, le regard affolé qui vient s'agenouiller tout près du blessé royal. Il réclame son châtiment. « Oh, sire, je vous en supplie, faites-moi trancher la main, dit-il. Celle-ci, la main droite. » Et puis il se ravise. « Non, qu'on m'ôte plutôt la tête. Oh, sire, s'il vous plaît. » Et devant cette étrange supplique, le roi trouve la force de sourire. « Rien, murmure-t-il. Ne vous souciez de rien. Sire, oh, pardon. » Vous n'avez pas besoin de mon pardon. Le roi fait des efforts surhumains pour parler. Vous avez obéi à votre roi comme comme un bon chevalier, mais le sang qui continue à gicler empêche le roi d'en dire davantage.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce Colville a une technique parfaite. C'est la première fois que je le vois.
Moi aussi. Mais c'est Liechtenstein. Sa technique est rudimentaire, il n'a aucun style. Cela dit, il est intrépide.
Comment cela, intrépide?
Sur les casques, les fentes des visières sont étroites. Néanmoins, des éclats peuvent pénétrer. Presque tous les chevaliers lèvent le menton au dernier instant. On perd de vue son adversaire, mais on protège ses yeux. Cet Ulrich ne le fait pas.
C'est un extrait du film Chevalier sorti en 2001. On y explique la technique des chevaliers pour ne pas prendre d'éclats de bois, de lance dans les yeux.
Vous voyez que ça a donné des idées aux scénaristes, cette histoire du 30 juin 1559 en la lice des Tournelles. Alors on a porté le grand blessé jusqu'à l'hôtel royal. Henri II, qui est d'une force herculéenne, a réussi à monter lui-même, en tout cas une grande partie du grand escalier. On l'a soutenu aux aisselles, évidemment. Parvenu à l'étage, il s'est effondré. On l'étend sur son lit. Il fait des efforts pour joindre les mains que le connétable arrose copieusement de vinaigre. L'orbite gauche est affreuse à voir, mais le roi lève au ciel son œil valide. Il fait le geste de se frapper la poitrine. Il murmure déjà la prière des agonisants. Il est convaincu qu'il va mourir. On dirait qu'il essaie de transmettre un message. « Sire, je vous écoute », dit le duc de Guise. Le duc de Guise, qu'on appelle le balafré, il a lui-même eu jadis le visage percé d'une pointe de lance, mais c'était dans un combat militaire. « J'aurais dû écouter la reine », articule Henri, « j'aurais dû ». Pauvre reine Catherine, elle le savait, elle le sentait. Depuis l'accident, elle ne cesse de s'évanouir, de revenir à la conscience, de s'évanouir encore. Que devient de son côté Diane de Poitiers? Oh, elle est beaucoup plus ferme. Elle s'est retirée dans son propre hôtel. À Paris, la favorite n'habite pas sous le même toit que le roi. Et elle vient aux nouvelles, elle écoute tout ce qu'on peut savoir. La rumeur lui dit qu'à la demande du blessé, on a joué de la musique à son chevet. Il aurait même pu avaler plusieurs compotes avec un apparent plaisir. On a fait venir Ambroise Paré, le grand chirurgien. Le duc de Savoie a également envoyé chercher Vézal jusqu'à Bruxelles. Ça nous rappelle notre émission à Montpellier. Oui. Diane de Poitiers ne sait plus à quoi s'en tenir. Elle attend la visite du connétable, Anne de Montmorency, qui n'a pas l'air trop abattue. « Le roi vit-il ? » lui demande-t-elle. « Oui, madame, mais pour combien de temps ?» Il soupire, il avoue son découragement, se plaint de cette clique des Guises qui prépare déjà le règne du dauphin François et de son épouse, Marie Stuart, qui est leur propre nièce, Marie Stuart. « Le croirez-vous, j'ai mis le connétable, si je vous dis qu'ils essaient de m'imputer le fait que la visière du roi n'ait pas été crochetée ?» Et que disent les médecins? Oh, ce n'est qu'une question d'heure. Montmorency lui explique qu'on est allé chercher des condamnés au Châtelet qu'on a exécutés pour la circonstance et pour offrir à Paré et accessoirement à Vézal un modèle en quelque sorte de la matière sur quoi s'exercer. Mais les médecins savent que c'est fini. On ne pourra pas sauver le roi. À ce moment-là, une femme de chambre survient. « Madame, il y a ici un huissier de la reine et on fait entrer le messager. » « Madame, annonce-t-il à Diane de Poitiers, je suis venu sur ordre de la reine, vous priez de me remettre les joyaux appartenant à la couronne et qui seraient en dépôt dans vos cassettes. » Là, Diane se crispe. « Le roi est-il mort ? » demande-t-elle. « Non, madame, mais on craint beaucoup qu'il ne passe pas la nuit. » « Le roi n'est donc pas mort ?» Et là, Diane de Poitiers contient sa colère. « Non, madame, alors je n'ai pas encore de maître, » répond-elle. Et elle renvoie l'huissier qui s'incline et qui sort. Si la reine Catherine prépare en effet le nouveau règne, elle n'est pas moins ravagée de chagrin. Et quand elle voit au chevet de son mari la faculté s'éparpiller soudain comme une volée de corbeaux, elle comprend. L'abcès a gagné tout l'intérieur du crâne, trépané, dit Vézal, ne servirait plus à rien. Et là, la médecine et la chirurgie renoncent. Dans un coin de la chambre royale, il y a le jeune dauphin François qui a passé les 6 jours précédents dans sa chambre et qui fait peine à voir. Marie Stuart, en revanche, paraît plus imperméable à la douleur ambiante. Quelques heures plus tôt, le roi a dicté à son fils une ultime lettre à l'intention du pape afin d'annoncer au Saint-Père l'arrestation du conseiller Dubourg et d'autres parlementaires luthériens. Le roi y a consacré ses dernières forces comme si ça avait dû être le couronnement de son règne. C'est une interminable agonie qui s'achève donc le 10 juillet seulement. C'était le 30 juin l'accident. Hein. Le 10 juillet, vers 1h de l'après-midi, le grand chambellan souffle la bougie qui signalait la présence d'un souffle de vie dans ce corps royal, le grand roi Henri II du nom a cessé de régner. Catherine récite une prière, elle se dirige vers la porte et alors on assiste à ce moment-là à cette scène incroyable. C'est la jeune Marie Stuart qui, sachant qu'elle est désormais la reine, veut passer à tout prix la porte avant Catherine de Médicis. Alors Catherine est surprise, elle hésite, les chroniqueurs ont été très surpris aussi. Et puis sans faire de difficulté, elle s'abîme dans une révérence. C'est l'hommage d'une sujette à la nouvelle reine. On dit que la jeune Marie Stuart n'aurait pas pu se retenir de sourire. Ça, c'est une évidence, elle aurait dû laisser passer la reine, mais la veuve. Mais finalement, elle a relevé le menton, elle est sortie la première. On a envie de dire qu'elle en profite parce que son règne va durer moins d'un an.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec vos deux invités aujourd'hui, Olivier Renaudot, qui est co-commissaire de l'exposition Sous l'égide de Mars, Armure des princes d'Europe, présentée par le musée de l'armée Hôtel national des Invalides. Également avec nous, Didier Lefur, qui est historien et auteur de la biographie Henri II chez Taillandier.
Auteur, entre autres, de cette biographie d'Henri II, grand connaisseur de cette période de la Renaissance. Merci, Olivier Renaudot. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Il y a quelques jours, c'est vous qui m'accueilliez aux Invalides pour cette somptueuse exposition sur laquelle nous allons essayer de donner quelques coups de projecteurs. On a notamment dans la deuxième partie de l'exposition une immense vitrine dans laquelle se trouve, me disiez-vous, la quasi-totalité des pièces disponibles en matière d'armement de parade de cette époque, d'armure, de rondage, etc. Donc nous allons y venir dans un instant. Alors, une dame, Edwige, par Facebook, j'allais dire par Internet, mais c'est par Facebook, il faut que je me fasse à tout ça, nous dit « Bonjour, comment peut-on être certain de la véracité des documents et récits d'époque ?» Et d'une façon plus générale, la question qui se pose, c'est comment peut-on en savoir autant sur un événement qui a duré finalement si peu de temps ? Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure dans le récit. Je vous ai dit que c'était comme à chaque fois qu'il se passait un très grand drame. Évidemment, tout le monde y va de sa plume. Mais Didier Lefur, vous pouvez peut-être nous dire plus précisément quelles sont les sources dont on dispose pour parler d'un événement comme la mort d'Henri II.
D'abord, c'est la mort d'un roi, donc forcément tout le monde va s'y intéresser. C'est un accident d'abord, avant que ce soit une mort. Donc là aussi, il y a tous les observateurs. C'est aussi dans un contexte bien particulier qui est une suite de cérémonies de mariage qui célèbre une paix,
ce qui veut dire que
attendue.
Tout le monde est là, présent, etc. Évidemment.
C'est-à-dire qu'il y a non seulement tous les chroniqueurs français, tous les gens qui s'occupent de la propagande d'Henri II, mais aussi tous ceux qui s'occupent, et tous les ambassadeurs des cours d'Espagne, ou des cours impériales, des cours aussi étrangères d'Angleterre, et de toutes les principautés d'Italie.
C'est tout très important cette correspondance des ambassadeurs, parce que c'est un des moyens dont on dispose, surtout pour cette époque de la Renaissance, lorsqu'on veut connaître de près la vérité des choses, parce que les chroniqueurs sont plus ou moins fiables, évidemment. Un ambassadeur qui rapporte à son maître, à son souverain, ce qu'il a vu à la cour est censé être le plus objectif possible.
Censé, mais le problème c'est que souvent ces discours, enfin en tout cas ces mémoires, sont en rapport avec les relations que le pays étranger a avec le royaume de France. Donc si on est en paix ou si on est en projet de paix, forcément le rapport sera un peu plus positif, et par contre si la guerre se dessine, eh bien là on sera beaucoup plus critique. Mais c'est vrai aussi que ces rapports-là sont intéressants parce qu'ils vont pouvoir proposer des petites, j'allais dire, anecdotes, ces petits points de détail de la vie que les chroniqueurs en général vont laisser tomber parce qu'on s'intéressera uniquement à la structure du pouvoir, à l'image du roi et à la destinée de sa politique.
Alors nous avons vu que Henri II à ce moment-là amorçait sa 13e année de règne, il avait 40 ans, c'est bien jeune pour mourir, surtout lorsqu'on est roi de France et qu'on a encore beaucoup à accomplir.
C'est jeune et ça l'est plus tant que ça. Déjà, à partir des années 1500, après la conquête de Calais avec Guise en 58, on commence à dire il serait peut-être bien que...
Donc on reprend Calais aux Anglais, hein.
C'est ça,
un grand événement.
Après 211 ans d'occupation, c'est une vraie victoire, c'est une grosse victoire et ça fait oublier un peu la défaite de Saint-Quentin.
Voilà. Défaite de la Saint-Laurent.
C'est ça, et on commence à dire, il y a un très joli poème de Ronsard là-dessus qui commence à dire, le roi 3 à 40 ans, il commence à avoir des cheveux qui blanchissent, prendre un peu d'un bon point. Il serait peut-être temps qu'il s'occupe, comme son père, davantage de ses châteaux et de sa santé, plutôt que de s'occuper des affaires de guerre qui commencent à devenir assez épuisantes pour le royaume. Et ça profile un petit peu, soit dans l'imaginaire de la société, l'idée d'une paix qu'on commence à envisager, qui nécessitera forcément des concessions.
Contre le vieil ennemi Habsbourg, en
c'est ça, et ces concessions donc, de la paix du Château Cambrésis qui, pour les observateurs, pas forcément pointilleux, vont penser que c'est un
recul de la France,
un recul, oui. Alors que ça ne l'est pas en fait. C'est simplement le retour de terres occupées sur lesquelles on n'avait aucun droit et qui, ce retour-là a permis par contre l'acquisition d'autres choses, notamment Calais, les trois évêchés.
De constituer le précaré avant la lettre.
C'est
si
ça,
on peut dire,
exactement. Ouais. Et puis aussi de laisser les mains libres pour éventuellement envahir l'Angleterre.
Trois évêchés de Metz, Toul et Verdun.
Pardon. Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le roi Henri II était le dernier des chevaliers? Il avait quand même un vrai goût pour ça, pour le Moyen-Âge, les romans courtois, tout ça. On dit qu'il avait été formé par la lecture d'Amadis de Gaulle au temps de sa captivité en Espagne.
Alors, on l'a dit, mais c'est pas vrai. Tout simplement parce que l'Amadis, qui est un texte espagnol qui date de 1508, si je me souviens bien, n'a été traduit en France et en français que dans les années 15, à partir des années 1542.
Il parlait l'espagnol, le petit, non?
Oui, mais il arrive à 6 ans. En prison, il est en prison, donc, à 6 ans, et il ne connaît pas l'espagnol encore. Le texte n'est toujours pas traduit en français dans les années 1526 quand il arrive en Espagne. Il va rester 4 ans, certes, dans ses prisons espagnoles avec son frère. Il va, certes, apprendre l'espagnol, mais de livres, il n'en aura que pour ses prières. Et son éducation est complètement laissée tomber, puisque son précepteur va être séparé, écarté de ses deux enfants. Et donc, ces deux enfants vont peu pousser comme des herbes folles pendant 2-3 ans. Donc, quand il arrive en 1530 en France, il a simplement 11 ans. Certes, il sait l'espagnol, mais il n'a toujours pas lu l'Amadis.
Alors, je suis certain qu'un certain nombre de nos auditeurs se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, je crois que c'était le fils de François Ier, on nous parle de prison en Espagne. Oui, parce que en 1525, François Ier a perdu la célèbre bataille de Pavie en Italie, qu'il a été déporté, si je puis dire, à Madrid en Espagne. Il est devenu le prisonnier de l'empereur Charles Quint. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le pauvre François Ier va tout faire pour sortir de prison. Et c'est sa mère, surtout Louise de Savoie, qui mène les négociations et qui accepte qu'en échange de la libération de son fils, on envoie des otages qui sont des gages de respect des accords passés. En l'occurrence, le traité de Madrid, si je ne m'abuse.
C'est ça. Oui.
Et les gages en question, les otages, ce sont les deux fils aînés du roi, c'est-à-dire le prince François et le prince Henri, qui vont donc, à l'âge de 8 et 6 ans, quitter la France, traverser les Pyrénées, aller s'installer là-bas, en Espagne. Alors au début, ils sont simplement des hôtes d'État. Et puis peu à peu, à mesure que François Ier trahit sa parole et redevient l'ennemi irréductible de Charles Quint, eh bien, on va voir les enfants subir ce qui est un véritable emprisonnement et qui marquera leur vie. On peut dire que la psychologie d'Henri II aura été définitivement marquée par cette détention.
Oh, incontestablement, puisque c'était une détention très dure et les souvenirs après vont perdurer et les relations de Henri II, roi de France, avec Charles Quint seront en raison toujours de ce souvenir.
Alors, on a bien compris qu'Henri II n'avait pas pu apprendre à lire dans Amadis de Gaulle, mais il n'en était pas moins féru de tournois, de chevalerie et d'armure, ce que montre admirablement l'exposition qui se tient en ce moment au musée de l'armée, donc à l'hôtel des Invalides. Exposition tourne autour, on peut dire, du règne et même de la personnalité d'Henri II. Olivier Renaud dit.
Oui, parce que cette exposition est un. L'objectif de cette démonstration était de montrer justement les grandes productions de l'armurerie de luxe française au XVIe siècle. Et il se trouve que cette armurerie de luxe s'est mise en place en grande partie sous le règne d'Henri II, qui a été un très grand mécène des armures et un très grand amateur de ce genre de réalisation. Et de fait, c'est certainement un des souverains français du siècle pour lesquels on ait le plus de témoignages et le plus de documents sur les armures qu'il a portées.
Alors, grâce à ces armures que nous avons sous les yeux aux Invalides, nous allons peut-être pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé exactement au tournoi des Tournelles.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Continuez à réagir sur europe1.fr ou bien sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire, Franck.
Oui, et alors les questions qui se posent sont essentiellement des questions techniques sur l'armure. Ça tombe très bien, puisqu'il y a donc cette très belle exposition en ce moment aux Invalides, sous l'égide de Mars, Armure des Princes d'Europe. Je dis très belle exposition pour ceux qui, pour une raison ou une autre, et ce serait bien dommage, ne pourraient pas faire le déplacement jusqu'à Paris. Je ne peux que leur conseiller le superbe catalogue qui a été tiré, qui est presque un objet d'art. Hein. C'est un très très beau livre, édité par Nicolas Chaudin, du reste, et qui donne une idée de cette extraordinaire réunion. C'est un rassemblement, c'est une concentration d'armures de parade que l'on voit aux Invalides. Olivier Renaudot.
On a fait venir très modestement ce que l'on peut considérer comme les plus belles armures du monde.
Il n'y a pas les japonaises, disons, du monde occidental.
Du monde occidental, voilà. Du monde occidental au XVIe siècle.
Ouais. Alors voilà. Ces armures, c'est vrai, on ne s'y attend pas quand on vous dit, j'ai visité l'exposition avec Lorena Martin, a priori on dit on va avoir des armures, bon, ce sont des vrais objets d'art, hein. C'est d'un raffinement, les décors sont d'une somptuosité incroyable.
Ce sont des pièces d'orfèvrerie à échelle humaine.
C'est ça, exactement.
Des sortes de bijoux virils, en quelque sorte, qui concernent le cavalier, mais également son cheval.
Et alors ces pièces d'orfèvrerie ont commencé très tôt, hein, mais elles ont atteint leur apogée sous le règne précisément d'Henri II. Alors on a plusieurs armures d'Henri II dans l'exposition, dont une qui est absolument incontestable, authentique.
Incontestable, puisqu'elle porte en fait une emblématique liée vraiment à Henri II. Il l'a portée alors qu'il était encore dauphin. Mm-hmm. Il avait à peu près une vingtaine d'années, son père François Ier était encore régnant.
Et François Ier est mort en 47, Henri est né en 19, donc c'est ça, vous voyez.
Voilà, on est dans cette période-là. Et en fait c'est une armure qui est une réalisation italienne, mais qui est assez intéressante parce qu'elle porte l'emblématique du dauphin. Donc ses couleurs blanc et noir, l'or et le sable, donc l'argent et le sable, qui étaient les couleurs qui s'étaient choisies.
Qui étaient celles de Diane, évidemment.
Qui étaient celles de Diane, qui s'étaient choisies. Et puis de l'emblématique également, les croissants, ses initiales entrelacées avec celles de son épouse Catherine de Médicis, l'arc turquoise, c'est-à-dire cet arc oriental, en fait, qu'il porte également.
Alors, de face, elle est très impressionnante, mais quand on se met de côté, c'est vous qui m'avez fait déplacer, vous m'avez dit, regardez, on constate des particularités morphologiques assez spéciales sur cette armure d'Henri II.
Et oui, parce que Henri II se tenait un petit peu voûté, et l'armure, en fait, restitue cette...
On voit ce cou qui plonge en avant,
Ouais. Et ce qui est d'ailleurs un élément d'identification, puisque toutes ces armures sont réalisées strictement sur mesure, bon, surtout évidemment pour des commanditaires à la hauteur d'un roi de France, et, ou d'un futur roi de France, et elles sont vraiment le reflet, la seconde peau, en quelque sorte, du prince.
Ce que l'on voit, c'est que les plus grands artistes ont prêté leur concours à la réalisation du décor de ces armures, les meilleurs artisans pour leur réalisation tout court, ça, évidemment. Ces artistes conçoivent le décor de l'armure quasiment comme un décor d'architecture. On peut d'ailleurs constamment établir des parallèles entre les deux.
Oui, nous sommes à une période où le grand chantier du père d'Henri II, donc le grand chantier de Fontainebleau, a encore une énorme importance. Henri II continuera également le chantier de son père. Et cet environnement bellifontain, ce décor bellifontain qui a été mis en place donc par les artistes français, italiens et flamands qui avaient été ramenés par François Ier, va avoir une énorme influence sur tous les arts décoratifs et l'armure évidemment comprise. Et on a quelquefois l'impression que ces armures sont un petit peu la prolongation de ces galeries que le roi, mais également les gentilshommes se font réaliser à l'époque, et qu'en quelque sorte l'armure est une galerie portable avec un véritable programme iconographique, donc dédié à, en général, des scènes de l'Antiquité, et tout un décor ornemental qui vient se nicher entre les registres, entre les cartouches, entre les tableaux.
Il y a comme une mise en abîme, puisqu'on voit des scènes carrément de combat sur des armures qui elles-mêmes étaient portées par des combattants. Attention, j'en bafouille. Attention, on parle là d'armures de parade, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas portées pendant les temps de guerre. Hein. Elles sont portées pour les cérémonies, les joyeuses entrées. Les joyeuses entrées sont ces très grandes cérémonies de présentation de souverains ou de princes aux villes, et puis elles sont portées quand même lors des tournois
pour certaines d'entre elles, bien qu'elles soient souvent plus légères que des armures de combat ou que des armures de joute, et leur résistance est moindre et ne leur permet pas de recevoir par exemple un coup de lance, et donc ce type d'armure n'est pas forcément le type d'armure qu'a pu porter Henri II lors de ce fameux tournoi qui lui a été fatal.
Alors, lorsqu'on voit les armures d'Henri II, ou dites d'Henri II parmi toutes celles que vous présentez, qui encore une fois sont réunies dans dans cette espèce d'immense aquarium, là, c'est très impressionnant. Lorsqu'on les regarde, on se dit que le roi n'était pas si grand que ça. Quand on pense que son père, François Ier, était un géant, quelle était, est-ce qu'on peut savoir la taille d'Henri II, Didier Le Fur ?
C'est très difficile, mais on a la taille de cercueil.
Ah, ben voilà, par
c'est
exemple.
C'est 5 pieds et demi.
C'est-à-dire, parce que là,
grosso modo, 1m80.
Oui, vous savez qu'on n'est pas toujours très au fait des anciennes mesures.
1m80. Ouais.
Donc, grosso modo, 1m80. Ouais. Donc, on peut estimer que sa taille fait un peu 1m70, 1m80.
Ce qui supposerait que les deux plus petites armures ne seraient donc bien pas les siennes. Ou alors qu'elles seraient des armures de jeune homme, peut-être.
Peut-être de jeune homme. On a un moyen d'estimer la taille réelle des individus en mesurant, en fait, la taille des chevilles sur la pièce d'armure donc, qui couvre les chevilles, qui est une pièce en un seul morceau. Et en fait, on mesure la distance entre la malléole du pied et le genou. Et on a à peu près des cotes exactes pour le... Et effectivement, on atteint à peu près 1m80.
C'était un athlète. Hein. Il adorait ce que nous appelons le sport. C'était même l'essentiel de son passe-temps. Non seulement la chasse, la paume. Enfin, à chaque fois qu'il pouvait, il se dépensait physiquement.
Ça fait partie aussi de l'imaginaire d'image du roi idéal. C'est-à-dire qu'en gros, un prince doit être forcément puissant, fort, grand et capable de résister.
C'est pas le cas de ses fils, par exemple. Que ce soit François II, Charles IX ou Henri III, on peut pas dire que ce soit de grands sportifs.
Sont morts un peu jeunes et ils n'ont pas eu forcément le temps de se développer. Et c'est vrai qu'Henri III n'avait pas cette morphologie-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'avait critiqué, on avait considéré que c'était un mauvais roi parce que justement il était trop maigre. Et un roi de France devait être grand, même si sa taille était plus modeste, eh bien on estimait toujours qu'il était bien proportionné afin de montrer que c'était, puisqu'on considérait que les gens, plus on avançait dans le temps, plus ils rapetisseraient et que les géants qui avaient peuplé le monde avant le déluge, eh bien, étaient des êtres d'exception et qu'un grand homme, par sa taille au XVIe siècle, était considéré comme une sorte d'exception.
C'est quelqu'un qui n'était pas dégénéré, en quelque sorte.
Exactement. Et par conséquent, il avait cette sagesse sereine dans laquelle on pouvait se confier.
Au-delà de toute la légende royale, est-ce qu'on peut dire quand même qu'Henri II aimait les sports, enfin aimait le combat, par exemple, aimait le jeu de paume?
Ah oui, incontestablement, c'était un très très bon joueur et il montait à cheval régulièrement, il chassait aussi souvent que son père et puis il y avait tous les autres activités sportives, parce que là encore, il fallait montrer. Mais c'était un besoin, hein, certes, un goût personnel, mais aussi il fallait absolument montrer que le roi, même s'il ne faisait pas la guerre, s'entretenait toujours en temps de paix à ses jeux de guerre.
Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de ces périodes et de ces activités royales, c'est que le mot qui revient le plus souvent est toujours le mot « montrer ». Il faut montrer. Il y a constamment une dimension démonstrative dans la posture royale. Et nous parlions à l'instant des joyeuses entrées. Qu'est-ce que c'est qu'une joyeuse entrée, sinon une démonstration de faste et de puissance, de grandeur ?
Où la ville qui accueille le roi montre tout son amour pour ce prince, espère aussi que ce prince venu dans cette ville lui fera quelques quelques cadeaux. Et puis aussi, c'est un message pour le roi, afin de montrer à la fois sa puissance, ses victoires, et puis aussi son projet politique.
On peut dire que les joyeuses entrées auront été peut-être le morceau de choix de l'étiquette royale sous Henri II. Ce sont les grands moments du règne. Elles ont d'ailleurs été peintes admirablement. On a énormément de représentations qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ça nous donne aussi une idée de l'incroyable raffinement de cette cour. Le raffinement réel de la cour d'Henri II, c'est ce sur quoi nous allons nous pencher dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
On vous retrouve avec vos invités Olivier Renaudot et Didier Le Fur, Franck.
On connaît le style Henri II, vous savez, c'est ce style qui, au début du XXe siècle, on va dire aller dans les années 1900, a peuplé toutes les salles à manger petits bourgeois, si l'on peut dire.
Henri II.
Dans le good.
Mais bon, c'était, vous savez, c'est chose très très... Mais ça peut être joli, du reste, hein, quand ça revient un peu à la mode en ce moment. C'est extrêmement chantourné, sculpté, etc. Ça n'est, il faut bien le dire ça, Didier Le Fur, ça n'est qu'un très pâle reflet de la véritable splendeur, non seulement du mobilier, mais des décors de l'époque d'Henri II.
Oui, surtout que le style Henri II a été quand même une création du 19e et après tous les industriels du bois du 20e. Cette cour de Henri II progresse parce qu'il y a tout un cérémonial qui se met en place aussi. On invente l'antichambre qui n'existait pas encore dans la structure des maisons royales ou des maisons.
Donc on met en quelque sorte les appartements un peu à l'écart. En fait.
C'est ça, c'est-à-dire on les prolonge. Les appartements royaux étaient assez petits par rapport à la puissance du roi de France, alors que toutes les cours d'Europe avaient déjà tout un cérémonial déjà bien structuré.
Pas de l'Italie.
Voilà, notamment. Et alors, voilà, à partir de Henri II, il y a la notion du petit cabinet qui va se développer, la notion d'antichambre aussi qui se crée, avec tout un cérémonial du coup qui s'instaure à l'intérieur de cette vie royale, en tout cas quand le roi est en représentation, parce que quand il est dans sa maison comme à Fontainebleau ou des choses comme ça, là, le cérémonial est un peu plus court et un peu plus restreint. Et parce que Fontainebleau n'est encore qu'une maison, hein, ça devient un château royal qu'à partir d'Henri IV. Enfin, d'une façon un peu comme
Blois,
comme Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-en-Laye, pardon. Et cette cour donc va aussi à digérer les apports italiens du règne de François Ier et va développer, c'est ce qu'on va un peu sur lequel on va, c'est un point sur lequel on va insister lourdement au 19e, même si c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire va développer un peu la création dite française. Faut toujours faire attention à tout ça parce que on va attribuer des œuvres à des artistes français qui ne sont pas forcément responsables du travail et un peu sous-estimer toujours l'apport des Italiens
et
leur présence qui reste toujours très très puissante.
Qui le restera jusqu'au règne de Louis XIII au moins.
Tout à fait.
Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a eu, pendant cette période, et peut-être sous l'influence de Diane de Poitiers, c'est vous qui allez nous le dire, mais il y a eu un véritable goût du faste. On imagine toujours la splendeur renaissante sous la cour de François Ier. C'est bien dans celle d'Henri II qu'il faut la replacer, en réalité.
C'est un long chemin. C'est un peu compliqué de trouver une date de naissance pour
ce genre
de choses.
C'est
en fin de compte. Pourquoi
parle-t-on en France de première? Enfin, on parlait. Je crois que c'est un peu abandonné aujourd'hui. De première et de deuxième renaissance.
Parce que là, justement, il y avait cette première renaissance dite italienne ou l'influence italienne.
Et Louis XII, donc.
Louis XII et François Ier. Et puis après, cette
deuxième renaissance française
italienne avec ce règne d'Henri II qui aurait francisé
Jean Goujon, avec Philibert Delorme, avec tous ces gens.
Voilà. Mais en oubliant aussi tous ceux qui travaillaient encore, tous ces artistes italiens qu'on a complètement zappés aujourd'hui parce que justement il fallait privilégier ces auteurs français ou ces artistes français, mais qui étaient aussi, qui ont été responsables d'une quantité de projets, d'une quantité d'œuvres aussi. Et la plupart de tous les plans, notamment sur Charleval, qui était un château projeté par Charles IX en 1570, et bien la plupart des architectes de ce château qui ne sera jamais construit, et bien sont des Italiens.
Il y a quand même une esthétique assez reconnaissable du règne d'Henri II, avec un retour aux formes classiques quand même. On va puiser dans l'antique un certain nombre de références.
C'est une idée qui naît à partir du règne de Louis XII, lentement, très très lentement. Ça va se voir sur des monuments funéraires, ça va se voir dans les entrées royales, sur des décors fictifs et ponctuels, et puis peu à peu dans l'architecture à partir des années 1530 et de plus en plus après 1550.
Quand on parle d'esthétique, qu'elle soit architecturale ou décorative, ce qui me plaît, c'est qu'on fait constamment référence au végétal, finalement. On a l'impression que les choses comme ça naissent, croissent, mûrissent, et puis se fanent un peu parfois aussi. Cette esthétique, elle est particulièrement présente sur les grandes armures que vous présentez, Olivier Renaudot.
Oui, puisque les armures, de toute façon, les décors de ces armures sont composés par les mêmes peintres qui travaillent pour les galeries du roi, pour les résidences royales. Et d'ailleurs,
alors on leur commande, ça se passe comment?
C'est un travail collectif puisque l'armurier va livrer des pièces d'armure qui sont réalisées à chaud, qui sont à la mesure du commanditaire, qui sont livrées, je dirais, brutes, sans décor. Et ensuite, ce décor va être réalisé par des orfèvres qui ont l'habitude de travailler un métal assez difficile, qui est du fer, hein, qui n'est pas évidemment l'argent que les orfèvres ont l'habitude de travailler.
Vous m'avez expliqué un fer qui est battu, qui est donc très dense.
Qui est battu, qui est très dense, dont les molécules sont très serrées justement du fait du travail de la forge, et ce qui lui donne sa résistance. Et l'orfèvre va travailler à partir d'un véritable patron qui est élaboré par un peintre, et les plus grands peintres du temps, des peintres que l'on retrouve sur les chantiers de Fontainebleau, Luca Peni, qui est un de ces Italiens auxquels vous faisiez allusion, mais également Jean Cousin, par exemple. Nous avons davantage de projets pour des œuvres périphériques, comme des œuvres d'orfèvrerie ou des œuvres d'armure, que pour leur peinture elle-même, en réalité. Russie.
C'est étonnant. Ils ont laissé finalement plus de vestiges dans le domaine des arts décoratifs ou militaires.
Ou militaires. À vrai dire, à cette époque, d'ailleurs au XVIe siècle, il n'y a pas cette hiérarchie des arts que l'on trouve en Europe à partir du XVIIIe siècle. Et les arts décoratifs ne sont pas considérés comme des arts mineurs. Comme on
il
les
fallait combien de temps pour constituer une grande armure de parade comme
une grande armure décorée, il faut plusieurs mois de travail.
Oh oui,
pas loin d'un an à peu près de travail. Ouais.
Et j'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans l'atelier. Tout ça est extrêmement précis. Ça doit coûter une fortune.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée, une armure très simple, une armure de guerre, coûte à peu près une centaine de livres, c'est-à-dire l'équivalent du salaire annuel d'un artisan. Quant à une armure à décor repoussé, on atteint quelquefois plusieurs milliers de livres. C'est-à-dire ce qui correspond au gage d'un très grand dignitaire officiel, d'un chancelier ou d'un très grand officier royal.
Oui, c'est le prix d'une grosse maison, en fait, cette armure.
Ou d'une très grosse maison, oui. Oui.
Alors, elles sont rassemblées, réunies. Il y en a combien? Je ne les ai pas comptées l'autre jour, mais...
Alors, nous avons une quinzaine de grandes armures qui sont toutes dans le goût français.
Très spectaculaires. Certaines, vous en avez monté à cheval, parce que le cheval lui-même est caparaçonné. Hein. Il porte lui-même une armure.
Également, oui.
Et quelle armure Et donc tout ça est à l'Hôtel National des Invalides. L'exposition court jusqu'au 26 juin.
Crois,
c'est ça. Donc on n'a quand même pas tellement de temps. Il faut y aller.
Et nous avons eu la chance de pouvoir présenter aussi, à côté de ces grandes armures, des dessins qui permettent de comprendre la création de ces décors.
Merci beaucoup, Olivier Renaudot. J'espère que nombreux seront nos auditeurs qui vont se rendre aux Invalides. Henri II de Didier Le Fur, c'est aux éditions Talendier. Entre autres ouvrages sur la Renaissance, je m'empresse de le préciser. Voilà, nous avons mis la virgule aujourd'hui.
Fasse un truc avec cette virgule.
C'est le gimmick de la semaine, c'est la virgule. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck. Comme tous les mercredis, on va s'intéresser à vos enfants et aujourd'hui, on va vous proposer une émission spéciale prénom. Ils s'appellent Thomas, Artus, Emma, Elliot, Lola, mais vous ne savez pas du tout ce que leur prénom signifie. Pendant une heure, notre invité répondra à toutes vos questions. Nous vous dévoilerons le palmarès des prénoms les plus tendances chez les filles et chez les garçons. Alors si vous attendez un bébé et que vous voulez connaître la signification du prénom que vous comptez lui donner, si vous hésitez entre plusieurs prénoms, on va vous donner des idées très originales. Par exemple, il y a une petite fille en ce moment qui s'appelle Facebook. Pourquoi pas? C'est passé en plus, donc on va y revenir. Faustine.europe1.fr et 3921 pour nous joindre en direct. Le standard est ouvert.
On se demande parfois à quoi servent les officiers d'état civil. Merci Faustine, à demain Julie.
À demain Franck sur Europe.